Portrait de Céline Tricard par Mélanie Fionne-Corbizet pour Les Femmes S'animent. Installée à Los Angeles depuis plus de 7 ans, Céline Tricard est réalisatrice et experte de renommée mondiale en 3D stéréoscopique et en réalité virtuelle. C'est une professionnelle multicasquette très occupée. Un coup à Venise pour recevoir un Lion d'Or, un coup en Amazonie pour un tournage au cœur de la forêt. Céline est une globe-trotteuse au planning bien chargé. À tel point que nous avons eu du mal à accorder nos agendas pour programmer un Skype transatlantique. Mais l'attente en valait la peine. J'ai découvert une femme brillante et passionnée, au parcours impressionnant, et cette interview enthousiasmante a résonné en moi pendant plusieurs jours. De Louis Lumière à Michael Bay. Sa carrière démarre par des études dans le cinéma traditionnel à l'École nationale supérieure Louis Lumière à Paris. Passionné par les nouvelles technologies, le moteur de Céline est d'aller défricher les possibilités narratives offertes par celles-ci. Ainsi, la 3D stéréoscopique lui offre un terrain de jeu encore peu exploré à sa sortie de l'école en 2008. Elle se spécialise dans ce domaine juste avant l'explosion de cette tendance qui a eu lieu avec la sortie du film Avatar. Son travail sur le premier long-métrage français en 3D relief, Derrière les murs, en fait la première femme stéréographe de long-métrage au monde. Je découvre au passage le métier de stéréographe, un équivalent de chef opérateur pour la 3D relief. C'est l'art d'utiliser la distance, le volume et la profondeur d'une scène en tant que paramètre narratif. Son expertise dans ce domaine l'amène à écrire un livre sur le sujet et à intervenir dans son école alors qu'elle est fraîchement diplômée. Comme le marché en France est peu demandeur de cette technologie, elle travaille beaucoup pour le marché international. En parallèle, elle a du mal à monter ses projets personnels de réalisation en France et sortir son court-métrage fut un chemin long et laborieux. Après une année plutôt déprimante où elle passe plus de temps au chômage qu'à travailler, elle décide de tenter sa chance à Los Angeles avec un visa de travail en poche. Et là, c'est le rêve américain qui démarre. Un mois après son arrivée, elle est engagée dans l'équipe caméra 3D sur le tournage de Transformers 4, un film hollywoodien réalisé par Michael Bay avec un budget colossal de plus de 300 millions de dollars. Le grand écart est incroyable. C'est un apprentissage sur le tas, aussi bien au niveau technique qu'au niveau connaissance du marché hollywoodien.
Il y a un esprit entrepreneuriat et ça fait partie de l'ADN des Américains que de donner leur chance, on va dire, un peu à tout le monde, même si c'est très dur, il faut travailler très dur, etc. Mais j'ai l'impression que les opportunités ici, surtout dans les domaines qui sont les miens, c'est-à-dire le cinéma, les nouvelles technologies, etc., j'ai malheureusement de bien meilleures opportunités ici qui fait que je reste en fait.
Elle décide de rester sur la côte californienne tout en créant des ponts avec la France. L'animation, une nouvelle corde à son arc. Depuis quelques années, son nouveau terrain de jeu technologique est la réalité virtuelle. Un nouveau langage et des nouvelles possibilités narratives qu'elle met en application dans plusieurs films, dont The Key, son tout premier film d'animation avec lequel elle remporte le prix Tribeca et un Lion d'Or à Venise. C'est un projet engagé sur la cause des réfugiés, un film qu'elle a voulu aborder avec une approche différente de ce qui a déjà été fait en matière de documentaire, avec l'idée d'utiliser le storytelling pour créer de l'empathie. La réalité virtuelle est un média qui accentue l'empathie. C'est d'une efficacité redoutable, à tel point que souvent, les spectateurs ressortent de l'expérience The Key en larmes. The Key, c'est une fiction animée intrigante qui met en scène Anna, un personnage au passé mystérieux, qui fait des rêves récurrents un peu bizarres, dans lesquels une clé est toujours présente. Le spectateur explore ses rêves pour découvrir le mystère autour de cette clé. Et à la fin, tous les souvenirs sont déverrouillés et le spectateur comprend qui est Anna, d'où elle vient et quelle est cette clé. Pour Céline, l'animation 3D lui apparaît comme étant l'outil adapté à cette histoire métaphorique qu'elle souhaite raconter. À ce moment-là, elle n'a aucune connaissance dans l'animation, mais ça ne lui fait pas peur. C'est un laboratoire et elle apprend sur le tas en faisant plein d'erreurs.
Pour moi, c'est la première fois où moi et ma productrice, on s'est filmé l'une l'autre à jouer les personnages pour faire des références, tu sais, pour les animateurs.
Ah oui, ouais.
J'imagine que, alors la prochaine fois que je ferai ça, j'ai appris de mes erreurs, on va embaucher des vrais acteurs.
L'animation est un univers qu'elle trouve fascinant. Le champ créatif est infini, tout est possible. Mais elle se rend compte que le moindre plan demande beaucoup plus de travail qu'en prise de vue réelle. De plus, elle doit composer avec des contraintes techniques accentuées par l'utilisation d'un moteur de jeu. Pour qu'il puisse tourner correctement, la 3D doit être simplifiée au maximum pour avoir le moins de polygones possible. Stimulée par le workflow de l'animation, la créativité et le côté artistique, elle réfléchit à faire un nouveau projet en animation, peut-être un jeu vidéo indépendant, un nouveau média qu'elle souhaite explorer.
Ça fait environ 5-6 ans qu'on a des jeux vidéo indépendants d'une beauté extraordinaire et d'une tellement plein de sens, plein d'émotions. Donc ouais. C'est quelque chose qui me fascine et donc pour lequel j'utiliserai sûrement des techniques d'animation aussi.
Un style engagé. En 2017, elle est contactée par une productrice qui cherche une chef opératrice pour travailler sur un projet de documentaire en réalité virtuelle sur les Yazidis. Les Yazidis, ce sont des femmes, des anciennes esclaves sexuelles de Daesh, qui ont intégré l'armée du Kurdistan pour combattre Daesh.
En fait, l'histoire était tellement forte, ouais. Et c'était tellement, ça s'alignait tellement avec mes valeurs et avec cette espèce de réveil féministe que j'ai eu dans ces années-là, que ouais. C'était pour moi une évidence qu'il fallait que je raconte cette histoire, qu'il fallait que je sois la personne qui raconte cette histoire.
Elle co-réalise ce documentaire, qui est une expérience de terrain bouleversante, où elle voit en vrai les camps de réfugiés en Irak qu'elle n'avait vus qu'à la télé. Ce tournage lui a donné envie d'embrasser ce genre de cause. C'est aussi une période où elle est en recherche d'une identité pour sa société de production naissante, Lucid Dreams Productions, spécialisée dans les nouvelles technologies. Comme elle fait des choses variées techniquement et en termes de format, elle a besoin de lier toutes ses activités dans une identité claire. Une identité basée sur sa manière de raconter les histoires qui l'intéressent. C'est là qu'elle comprend qu'elle adore les histoires poétiques et métaphoriques avec un fond et un message très fort en lien avec le monde réel. Elle en fait sa marque de fabrique et met en pratique son engagement en veillant à constituer des équipes qui incluent des femmes, des minorités et des personnes LGBT. Elle n'avait jamais fait attention à la condition des femmes dans le milieu du cinéma jusqu'à récemment. Elle pensait que si tu travailles bien, homme ou femme, ça ne fait pas de différence. À son arrivée aux US, elle s'est inscrite à l'association Women in Film. Et de fil en aiguille, elle a pris conscience qu'il y a malheureusement une différence. Quand elle œuvrait dans les équipes techniques du cinéma traditionnel en France, elle écartait tout signe de féminité sans s'en rendre compte. Fringues informes, pas de maquillage, cheveux attachés, personnalité très dure. C'était comme une manière inconsciente de compenser sa condition féminine. Rétrospectivement, elle pense que c'était une manière pour elle de se fondre dans la masse, parce qu'il y a très peu de femmes dans les équipes techniques. C'est une problématique de représentativité qui peine à évoluer en France, alors qu'en Californie, celle-ci a été en partie résolue, surtout dans le domaine de la réalité virtuelle, un domaine où les femmes sont très présentes et les minorités y sont représentées.
La réalité virtuelle, c'est un langage, c'est une question de point de vue, et il faut qu'il reflète la diversité du monde, en fait.
Avec Céline, nous avons une grande discussion sur le manque de femmes réalisatrices pour les films à grand budget, ou encore dans les panels d'experts en France lors des conférences. La raison principale qui est invoquée et qui revient souvent, c'est parce que soi-disant, il n'y a pas assez de femmes qualifiées, ou alors qu'on ne sait pas qui elles sont, où elles sont, quels sont leurs réseaux. Pour désamorcer cet argument, des associations ont créé des annuaires de femmes qualifiées. Céline me cite notamment celui de Women in Film, concernant les réalisatrices, et moi je lui parle du Female Animation Writers, un annuaire international de scénaristes femmes dans l'animation, annuaire qui est en cours de création. Céline pointe aussi le fait qu'on n'est pas très doué pour s'entraider entre nous. Les hommes ont cette espèce de bro-attitude, un genre de communication silencieuse et automatique, un esprit d'entraide que les femmes devraient imiter. Elle remarque d'ailleurs que dans sa carrière, tous ses mentors ont été des hommes. Et elle me cite l'exemple du studio Paramount Pictures, un studio qui est réputé pour être celui qui embauche le moins de femmes réalisatrices, alors que c'est celui qui a le plus de femmes dans les positions de pouvoir. Mais ces femmes-là, c'est une génération de femmes pour laquelle l'accès à des postes à responsabilité a été tellement dur pour elles que les autres femmes sont vues comme des menaces.
Il faut vraiment imaginer qu'en se faisant la courte échelle les uns et les autres, c'est comme ça qu'on changera les choses, quoi. Voilà, on ne peut pas faire que râler. Il faut aussi qu'on agisse. Toutes les femmes qui sont en position d'embaucher pour leurs équipes, elles doivent vraiment montrer l'exemple.
Un point de vue avec lequel je suis complètement d'accord et qui m'a poussée à rejoindre l'association Les Femmes S'Animent. Son conseil. À fond pour le partage d'expériences et d'expertise, Céline a écrit un deuxième manuel qui aborde cette fois-ci la réalité virtuelle. Elle intervient aussi régulièrement dans les formations et dans des masterclass. La transmission est importante pour elle et elle ne comprend pas cette tradition de garder jalousement ses connaissances techniques.
Moi, je suis plus pour l'avancée du médium que pour trouver mon prochain job. Je trouve que si des gens qui aspirent à devenir réalisateurs de réalité virtuelle, tant qu'à faire, autant qu'ils aient sous la main un peu tout mon savoir-faire, tout ce que j'ai appris sur le langage pour pouvoir, eux, faire des projets meilleurs, enfin, en tout cas, gagner du temps, ne pas faire les mêmes erreurs que moi et, de fait, faire avancer le médium et faire que ce médium ait du succès.
Avant de la quitter, je lui demande un conseil à partager avec nos lectrices et lecteurs. Voici le conseil qu'elle aurait aimé recevoir à l'école et qui lui aurait fait gagner du temps. C'est avoir l'esprit ouvert. Ne pas s'enfermer dans sa spécialité et faire l'effort d'aller voir comment fonctionne l'industrie plutôt que d'attendre qu'on nous offre ce qu'on veut sur un plateau. C'est ce qu'elle a fait en devenant productrice et en montant sa société. Elle cite un exemple où cette stratégie proactive a fonctionné. Lors des conférences sur la réalité virtuelle, elle assistait avec beaucoup de frustration aux tables rondes d'intervenants qui n'étaient constituées que d'hommes blancs et qui, en plus, en savaient moins qu'elle sur le sujet.
J'étais frustrée parce que je savais que j'étais assise dans la salle, je savais plus, en l'occurrence c'était sur la réalité virtuelle, je savais plus sur la réalité virtuelle que les gens qui étaient assis et qui donnaient le panel. J'avais l'impression de rien apprendre et même d'avoir un point de vue intéressant. Et pendant plusieurs mois, ça me faisait vachement râler. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'invite pas? Merde, j'ai fait des trucs super, ils devraient le savoir. Pourquoi est-ce que je ne suis pas invitée à parler sur ces panels?
Au lieu de râler sur ces panels, elle a décidé de contacter les organisateurs des festivals pour se proposer en tant que modératrice avec le sujet et le panel d'experts et d'expertes qu'elle amène avec elle. Ça a fonctionné et elle n'a jamais eu de refus à ce jour. En fin de compte, elle a créé les panels qu'elle aurait adoré voir. C'est tout l'art de renverser la situation pour pouvoir avancer quand même. Un art que maîtrise parfaitement Céline et que je compte bien mettre en application. Galvanisée par cet entretien, je quitte cette session Skype avec le sourire aux lèvres et la tête pleine d'étoiles, heureuse d'avoir fait la connaissance d'une grande poétesse de l'image.